Bonnes feuilles. 40 romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, Effraction, d'Alain de Fossé.
L'Assommoir de Zola, qui est un roman qui m'est très cher, et dont je vais lire le premier paragraphe. Gervaise avait attendu l'entier jusqu'à 2 heures du matin. Puis, toute frissonnante d'être restée en camisole à l'air vif de la fenêtre, elle s'était assoupie, jetée en travers du lit, fiévreuse, les joues trempées de larmes. Depuis 8 jours, au sortir du veau à 2 têtes où il mangeait, il l'envoyait se coucher avec les enfants et ne reparaissait que tard dans la nuit, en racontant qu'il cherchait du travail. Ce soir-là, pendant qu'elle guettait son retour, elle croyait l'avoir vu entrer au bal du grand balcon, dont les 10 fenêtres flambantes éclairaient d'une nappe d'incendie la coulée noire des boulevards extérieurs. Et derrière lui, elle avait aperçu la petite Adèle, une brunisseuse qui dînait à leur restaurant, marchant à 5 ou 6 pas, les mains ballantes, comme si elle venait de lui quitter le bras pour ne pas passer ensemble sous la clarté crue des globes de la porte. C'est un livre que je porte. Voilà, c'est un de mes 10 livres que je n'ai pas besoin de relire forcément pour l'investir ou qu'il m'investisse. Et ce roman en particulier parce qu'il, d'une part, il évoque un Paris totalement disparu. Et je pense que ce Paris, on en trouve encore peut-être des traces dans Effraction, puisque l'héroïne habite dans ces quartiers un peu déshérités du nord, du nord-est. Et puis parce que, le traitement que Zola fait du quotidien, des objets... De la présence très symbolique et presque visionnaire des objets qu'il a et de son époque, me ramène finalement un peu à la manière dont Anne Rivière, l'héroïne d'Effraction, se plonge elle-même dans les objets, dans le matériel, dans le quotidien, dans le pragmatique.
Alors on va vous écouter. Effraction, donc. Première page de votre nouveau roman qui paraît aux éditions Fayard et qui effectivement nous installe dans Paris alors que votre dernier roman nous avait plutôt emmené à la campagne.
On dit que c'est un viol. La sensation d'un viol, toujours, c'est ce qu'on dit. C'est d'abord ce qui lui vient à l'esprit et puis très vite que non, pas immédiatement, la sensation de viol doit être plus tardive, progressive, pernicieuse. Pour l'instant, dans l'instant, elle ne ressent pas de viol. Elle pense qu'elle ne ressent pas ça. Elle regarde les éclats de vitre éparpillés sur le parquet, sur le petit tapis, jusque sous la table. Elle voit les éclats qui brillent dans la lumière du plafonnier. Elle s'est immobilisée, la main posée sur l'interrupteur. Elle réfléchit à ce qu'elle devrait ressentir. Un viol. Et qu'elle ne ressent pas. Elle se dit... Je suis beaucoup trop détachée. Ma pauvre fille, tu es ridiculement détachée. Tu ne ressens pas le viol. Tu te dis déjà que la sensation de viol, tu la ressentiras plus tard, alors que ta main est toujours posée sur l'interrupteur, que tu n'as pas fait encore un pas dans l'appartement. Elle arrête ses réflexions, se force à ne pas penser, à constater. Voler. Cambrioler. Cela arrive. Cela lui arrive. Ce soir, cela lui est arrivé. C'est très froid. Un cambriolage parmi combien ce soir? Quel pourcentage de risque de cambriolage quand on habite Paris 19e au premier étage sur cour? énorme. Ce soir, c'est elle. Pour la sensation de viol, on verra plus tard. Là, elle doit se forcer à constater. C'est ton tour, voilà. Tu n'as plus qu'à constater. Alors entre, entre chez toi, avance. Quelque chose la tient paralysée sur le seuil, la main sur l'interrupteur, on ne sait pas ce que c'est. Pas la frayeur, pas une angoisse diffuse, pas la crainte d'un intrus caché dans un coin. Une sorte de lassitude plutôt, de grand découragement. Comme si l'âge lui tombait sur les épaules. Un ennui immense à devoir faire ça, entrer, constater, se forcer à ne pas penser au-delà. Voilà ce qu'elle ressent. Un cambriolage est une corvée avant d'être un viol. Sa toute première sensation est celle d'une corvée à accomplir, presque routinière, comme si elle avait été 100 fois cambriolée, qu'il lui fallait refaire ses gestes et ses démarches sans joie, gérer ce contretemps. Elle pénètre dans la pièce, le verre crisse sous ses semelles, un talon mi-haut dérape un peu sur un morceau de vitre. Elle se tient immobile, referme la porte d'une main sans se retourner. Seul son regard bouge, il balaie le salon à 180 degrés. La table contre le mur, plus d'ordinateur. Aucune importance, il n'y avait rien dedans, je m'en sers jamais. La cloison faite d'étagères, livres et bibelots. Peut-être dans la chambre seulement, cette sensation de viol commencera-t-elle de se manifester. Son premier geste est d'allumer la petite lampe à socle de verre, comme elle le fait toujours en entrant, avant de vite éteindre le plafonnier dont elle n'aime pas la lumière trop crue. Son premier geste est de confort, de soirée tranquille à la maison, à regarder un débat à la télévision ou à bouquiner. Je ne suis faite que de rituels, voilà. Elle allume la petite lampe sans éteindre le plafonnier. Doubles éclats de lumière sur les éclats de verre au sol, jusque sous la table. Vitre brisée, celle de gauche, au milieu, à hauteur de la crémone. La fenêtre est ouverte. Elle ne laisse jamais les fenêtres ouvertes, pas même entr'ouvertes et bloquées à la poignée. Elle ne saurait pas dire pourquoi, à cause des cambrioleurs peut-être, mais ce n'est pas sûr. L'appartement doit être hermétique en son absence, même en plein été. Jamais elle n'a été accueillie par un courant d'air frais en rentrant chez elle. Il faut ce viol qui prélude surtout à une corvée. Elle vérifie qu'aucun morceau de vitre n'a été catapulté sur le fauteuil de velours, s'assoit, au bord, comme une timide, comme en visite chez elle. Déjà, elle contemple les 3 dernières minutes écoulées. Le verrou qui ne s'ouvrait pas parce qu'il n'était pas fermé. La clé qui bloque. Oublier de fermer le verrou, c'est presque impossible. Je n'ai pas pu partir sans fermer le verrou. Elle est pleine de rituels. Celui-ci est à minima. Partir en verrouillant la porte en haut. La porte s'est ouverte comme juste claquée. Aussitôt le courant d'air est venu sur elle. Ce moment-là, où elle sent le courant d'air frais venu de la fenêtre, signe la fin de l'étonnement, le début d'autre chose, d'une acceptation peut-être. C'est mon tour. Avant même d'allumer le plafonnier, de voir les éclats briller sur le sol, elle accepte que ce soit son tour, cette corvée d'un cambriolage. Tout de suite après, elle pensera au viol, à la sensation de viol que l'on ressent, c'est ce que l'on dit toujours. Puis elle pensera qu'elle est trop détachée d'elle-même, toujours, qu'il est trop tôt aussi. Elle se forcera à constater un cambriolage normal quand on habite un premier étage sur cour dans le 19e arrondissement, rue d'Hautepoule. Il doit exister des statistiques, les assurances doivent avoir établi des statistiques sur ça. Le risque de cambriolage pour une femme âgée vivant seule dans cette rue, cette cour, à cet étage, en cette année. Pas une seconde, elle n'est surprise. Le seul étonnement a été de constater qu'elle n'avait pas verrouillé la porte en haut. Le premier courant d'air l'a rassurée. Elle préfère peut-être avoir été volée qu'avoir oublié de fermer le verrou, violée plutôt qu'esservelée. Dans le froid qui commence de tomber sur elle, le froid de ces moments-là, très morts, la pensée lui traverse l'esprit que les priorités sont là, respectées. Elle pose doucement sur le sol le sac qu'elle tient toujours à la main, un sac monoprix, transparent, très souple, avec les courses du soir, son dîner. Une bouteille de verre teinte contre un éclat de vitre. Elle baisse les yeux. Sa main est toute hachurée, toute striée de rouge et de blanc. Elle a dû serrer très fort les poignées de plastique jusqu'à les rendre coupantes. Tête basse, elle fait jouer ses doigts. Un coup de vent entré par la fenêtre, brisée, balaie une mèche qu'elle remet en place mécaniquement derrière son oreille. Coupe au carré, mi-longue, argent à reflets blancs. Elle verse l'eau bouillante. Dans la cuisine, elle se prépare un thé à la cardamome. C'est un réflexe de femme seule. Elle se dit, c'est un réflexe de femme seule, un thé avant tout. Elle verse l'eau sur les sachets dans le mug. Le thé, elle l'achète dans un grand magasin d'alimentation indien, au métro Louis Blanc. Avant toute chose, elle a allumé dans la cuisine et s'est fait un thé. Son sac reste posé dans le salon, devant la porte. Plus tard, elle rangera les courses du dîner. Mais là, un thé, pour se réchauffer de ce moment froid, celui du cambriolage tout juste découvert. C'est la seule chaleur possible, c'est son instinct. Se préparer un thé est un acte animal autant qu'un geste de femme seule, s'il existe une différence entre les deux. Lumière, cuisine intouchée, séparée du reste de l'appartement. C'est aussi pourquoi elle avait choisi cet appartement, pour la cuisine éloignée au bout d'un couloir. Les odeurs n'imprègnent pas les lieux, les rideaux, les vêtements. Elle déteste les cuisines ouvertes, américaines, cette intrusion de l'organique, ces relents qui traînent toujours. Il y a 30 ans, 32 ans. 32 ans sans cambriolage, elle se dit qu'elle a de la chance peut-être. Ce quartier, ce premier étage, ces vitres simples, pas de double vitrage, c'est inutile sur la cour. Elle trouve le moyen de se dire qu'elle a de la chance, alors que le courant d'air parvient jusqu'à elle depuis la fenêtre fracturée, alors qu'elle n'a pas encore jeté un coup d'œil dans l'appartement, juste l'ordinateur sur la table qui a disparu, ça elle l'a vu tout de suite, avant même les éclats de verre, c'était inévitable. De la chance, quelle acceptation, quelle réflexion de victime, je suis une victime née pour me dire une chose pareille, se faire cambrioler et estimer qu'on a de la chance que cela ne se soit pas produit avant. Une parole de victime née. Le thé brûlant, elle revient doucement dans le salon, pose le mug sur la table basse constellée d'éclats de verre, lève les yeux enfin, son regard se pose. Tout à l'heure, elle a fait le tour rapidement, figée, sans rien voir. Là, il va falloir explorer, identifier ce qui est là, ce qui a disparu, cet inventaire, cette corvée. Elle a reculé autant que possible ce moment avec son thé, mais là elle y est, acculée, à devoir identifier et dénombrer ce qu'on lui a pris, volé. Ce n'est pas un saccage. Le salon n'est presque pas dérangé, et le peu qu'elle voit de la chambre lui indique qu'il en est de même là-bas. Elle aurait presque préféré des tiroirs renversés, des objets brisés, des déchirures, des lacérations. Elle aurait presque préféré un vandalisme intégral qui aurait fait de cette mésaventure une tragédie et non un embêtement. Un scandale, pas un contretemps. Un viol avec violence. Ce n'est pas neutre, cette femme âgée qui rentre chez elle et qui se positionne de manière tellement détachée par rapport à ce qui se passe, je laisse peut-être entendre que ce personnage n'est pas si simple que ça. Mais je crois que la manière dont elle dit « ce n'est pas si grave », dont elle dit « je suis détaché de moi-même », est déjà assez louche. J'ai l'impression quelquefois qu'un écrivain, souvent, a autour de lui des espèces de démons qui traînent, qui se promènent et qui captent, qui attirent à eux des anecdotes, des faits divers, des souvenirs, des fantômes, des histoires. Voilà, c'est comme ça qu'un roman, pour moi, naît. Mais en fait, tout peut m'intéresser, ou plutôt m'inspirer, d'une histoire qu'on m'a racontée, voilà, un cambriolage un peu singulier, avec des suites un peu singulières, et puis c'est resté dans mon esprit. Et puis l'aimant a joué son rôle, d'autres choses s'y sont agrégées, des souvenirs personnels, souvenirs d'une amie, d'une histoire d'amour tragique, qui s'est du moins terminée tragiquement, et à laquelle j'avais participé en tant qu'ami proche, des lieux de Paris qui sont toujours plus ou moins avec moi. Et donc tous ces éléments se sont agrégés autour de cet aimant qui est la base d'un livre. Donc si l'on considère un fait divers comme une anecdote, oui, pourquoi pas. Et vous parlez de l'art du début, je pourrais aussi parler de l'art de la fin qui est toujours très, très ouverte. Donc je ne sais pas en réalité où j'emmène le lecteur et je ne sais pas où je m'emmène. C'est un peu le livre qui décide. You and your smile hold a strange invitation. Somehow it seems we've shared our dreams. Time after time, in a room full of strangers, out of the blue, suddenly you were there. Glancing my way in the gray of the dark, and always your eyes smile that strange invitation. Then you are gone. Hoping you stay with a warm invitation. Where have you been, darling? Come in to my C'est un choix qui peut sembler surprenant. Il s'agit d'une chanteuse américaine qui est assez peu connue en France, qui s'appelle Grace Connor, qui est une merveilleuse chanteuse de jazz. Et le morceau que j'ai choisi s'appelle Invitation. Et peut-être surprenant parce que rien a priori ne pourrait sembler plus éloigné de mon texte. Et en même temps, ce livre, comme je pense tous mes livres, ne parle que de musique intérieure. Et Chris Connor fait partie de mes musiques intérieures. Donc je me suis dit, pourquoi m'en priver, quitte à... Parce que ça semble un peu en décalage. Ça ne l'est pas tant que ça, je crois.
Merci beaucoup, Alain de Fossé.
Merci beaucoup.
C'était Alain de Fossé qui présentait son roman Effraction, qui paraîtra aux éditions Fayard. Les Bonnes Feuilles, Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Soma Nina, Jean Frédérix.